vous montrer en pas à pas comment on peut héberger aujourd'hui son application Facebook sur Azure. Donc je vais commencer un peu par me présenter. Je suis Alexandre Kowalczyk, ingénieur web chez Androids depuis un peu plus d'un an. Je vais vous présenter notre société pour que vous compreniez un peu plus qu'est-ce qui nous a amené à utiliser Azure au jour le jour pour héberger nos applications Facebook. Donc, qui est Envoice? Envoice, c'est une startup créée en janvier 2011 qui a grossi très vite. Pour atteindre actuellement, on est une trentaine de personnes à Paris. Et on est avant tout un éditeur de jeux. Donc, on a des jeux Facebook très connus qui ont un certain succès, comme par exemple l'Arc-en-Ciel du Moral. Je vais vous illustrer un peu le. Je vais vous montrer donc un de nos jeux pour que vous voyez un petit peu qu'est-ce que ça peut être. Voilà, ça c'est une de nos applications où on peut finalement partager des icônes avec ses amis, les publier sur son mur, etc. Et cette application, elle a à peu près 2 millions de visiteurs par mois. Donc c'est pour ça que Azure a été un petit peu indispensable pour pouvoir gérer la croissance d'Envoice. Et donc d'un côté, Envoice est éditeur d'applications. On a également une plateforme de jeux en flash avec à peu près 13 jeux. Et de l'autre côté, on fait aussi tout ce qui est conseil et publicité. Par exemple, récemment, on a réalisé le social reader du Figaro pour lire le Figaro sur Facebook. Donc voilà un peu une slide qui résume tout ça. 2,5 millions d'utilisateurs chaque mois. L'Arc-en-Ciel du Moral, notre application phare, mais aussi Il est con ce pigeon qu'on a réalisé en partenariat avec Addicties. Ça, c'est notre premier métier d'éditeur. Et enfin, intégration d'OpenGraph sur les sites partenaires. Donc, la vocation d'Envoice, c'est vraiment de révolutionner les usages du web grâce aux réseaux sociaux. C'est pour ça que on essaye de toujours être à la pointe et de permettre en fait de reprendre des usages existants. Donc, par exemple, ça va être le social reader du Figaro, mais les intégrer aux réseaux sociaux pour vraiment fournir une expérience aux utilisateurs différentes. Pour commencer cette présentation, je vais vous montrer comment créer une application sur Facebook. Ça se passe en deux étapes. La première étape, c'est un peu la plus ennuyeuse, c'est qu'il faut créer son compte développeur sur Facebook. Pour ce faire, vous devez utiliser soit votre carte bleue, soit votre numéro de téléphone pour valider votre compte. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que vous aurez un compte développeur et que vous pourrez accéder au portail d'administration des applications Facebook. Dans cette démo, je vais vous montrer comment créer et configurer votre application sur Facebook, comment tester en local avec un projet web, et ensuite on va installer que ce soit le Facebook JavaScript SDK et le Facebook C Sharp SDK pour pouvoir commencer à interagir avec Facebook. On va créer un nouveau projet de type MVC3. On va appeler démo Azure Envoice, qui sera de type une application Internet. On ne va pas faire de projet de test unitaire. Donc une fois qu'on a ce projet, quand on le compile, on peut voir tout de suite qu'on y accède très facilement. Une des choses intéressantes avec Facebook, c'est qu'on peut débugger son application Facebook même quand on est en local. Mais il y a un petit tweak à faire en fait, c'est-à-dire qu'il faut configurer le Virtual Directory sur son 2IS. Donc là, typiquement, dans tout ce qui est web, je dis que je vais utiliser mon serveur 2IS local et je crée un Virtual Directory. je récupère l'adresse. Et maintenant, je vais sur le portail de Facebook, developer.facebook.com, donc portail auquel on peut accéder que lorsqu'on s'est enregistré en tant que développeur. Et je vois ici la liste de toutes mes applications. Je vais pouvoir créer une nouvelle application que je vais appeler Demo Azure Envoice. Un namespace d'application qui en fait correspond à l'adresse que les utilisateurs vont devoir taper pour accéder à notre application depuis Facebook. Typiquement, ce sera une adresse du type apps.facebook.com/ le namespace. Donc là, on va dire Demo Azure Envoice, encore une fois. Et il nous dit que le namespace est disponible. Voilà, là, on arrive sur le panneau de contrôle d'une application. C'est vraiment à partir de ce panneau qu'on peut configurer tous les usages de notre application sur Facebook. Concrètement, ici, nous, on veut créer une application ou un jeu sur Facebook. Et donc, on va sélectionner cette option « Application sur Facebook ». On va définir l'URL du Canva, qui est l'URL de mon serveur de JS. Et on peut aussi définir l'URL sécurisée, ce qu'on va faire plus tard dans la présentation. Deux choses importantes à noter ici. Donc, l'App ID, qui est en fait un identifiant unique qui correspond à notre application, et l'App Secret, qui nous permet de communiquer avec Facebook légitimement. Je vais copier-coller ce app secret. Ou non, je vais enregistrer mon application. Comme ça, on va tout de suite pouvoir tester. Donc il nous dit que notre URL de page, grâce au namespace qu'on a défini, est apps.facebook.com/demo-azure-envoice. Et maintenant, très facilement, on va pouvoir en fait voir notre application dans Uniframe Facebook. Donc finalement on a pas mal de liberté grâce à ça. Ça nous permet de mettre tous les scripts qu'on souhaite, de vraiment faire pas mal de choses. Donc pour commencer à interagir avec Facebook, on va devoir installer le SDK Facebook. Donc je vais aller sur le layout de, en quelque sorte, ma master page en MVC. Et je vais rajouter, comme Facebook le conseille, le code en dessous de l'ouverture de la balise body. Ici, on voit plusieurs choses. On voit qu'il faut rajouter notre App ID. On va le récupérer tout de suite ici. Et on voit également Channel URL, donc ça c'est un petit détail qu'on ne va pas configurer ici, c'est pour des problèmes de compatibilité, de chargement du JavaScript avec notamment les anciens navigateurs. Une fois qu'on a fait ça, on a une fonction qui va charger automatiquement le fichier JavaScript Facebook qui s'appelle all.js en utilisant l'URL donnée. Ce qui est intéressant sur cette URL, c'est qu'on va pouvoir changer la langue. Typiquement, si on met FRFR, on aura tous les contrôles Facebook écrits en français. Donc ça, ce sont des choses qu'on implémente. On fait en sorte de générer la bonne adresse en fonction de la langue de l'utilisateur. Donc une fois qu'on a fait ça, ça va vraiment nous permettre de communiquer avec Facebook depuis le JavaScript. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voudrait faire, par exemple, ce serait récupérer le nom de l'utilisateur pour pouvoir l'afficher, pour prouver qu'on a vraiment une bonne utilisation de Facebook. Donc pour faire, on va pouvoir utiliser déjà une fonction qui nous permet de connaître le statut de l'utilisateur pour savoir s'il est connecté sur Facebook ou non. On la rajoute ici. Et en gros, en fonction de la réponse de la fonction, on va savoir si l'utilisateur est connecté ou non. Donc typiquement, je rajoute des alertes pour qu'on sache où on en est. Je vais pas en rajouter pour le log, histoire de pas le voir à chaque fois. Et maintenant, autre petit truc, quand je tape sur F5, ça lance mon localhost et mon démo Azure. Ici, on voit qu'on n'est pas autorisé. Mais on voudrait plutôt lancer, en général, l'application Facebook directement. Pour ce faire, il suffit de aller dans les propriétés du projet et de les mettre dans la start URL. Démo Azure Envoy. Donc maintenant, quand je tape F5, je vois tout de suite ma page. Là, on voit que l'utilisateur n'est pas autorisé. Donc si on va vouloir l'autoriser, on va pouvoir, en fait, faire une redirection avec, en utilisant une URL de redirection que je vais rajouter ici. Je rajoute dans ma variable. Et en faisant la redirection dans le cas où il n'est pas logué ou dans le cas où il est logué. Au lieu de, je remplace donc les alertes par des Windows top location href. Donc top parce qu'on est dans une iframe. Donc cette URL magique, c'est une URL qui en fait utilise le protocole, qui appelle Facebook pour utiliser le protocole d'authentification OAuth en spécifiant donc notre client ID, donc c'est notre application ID. Je vais le mettre ici. Le redirect URL, c'est l'URL sur laquelle on souhaite rediriger l'utilisateur une fois qu'il aura été authentifié. Donc là, encore une fois, ce sera, on va dire que on veut être au même endroit. On va enlever le authenticate. Et scope, ce sont les permissions qu'on va demander aux utilisateurs. Parce que il faut bien voir qu'ici, même si je vois l'application, en fait, l'application a très peu de données sur moi en tant qu'utilisateur parce que je ne lui ai pas donné les permissions. Il y a tout un système de permissions où un utilisateur va pouvoir dire s'il veut partager son email, ses photos, ce genre de choses. Donc typiquement ici, on va dire que on souhaite demander à l'utilisateur son email et ses photos. Et state, c'est une chaîne de caractères qu'on peut en fait définir pour si on souhaite vérifier que la requête vient bien de Facebook. C'est une clé, mais bon, là, comme on la met dans du JavaScript, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Quand je lance mon projet, cette fois-ci, automatiquement, le JavaScript a détecté que je n'avais pas autorisé l'application et j'ai été redirigé vers la page d'authentification de Facebook. Où là, j'ai le nom de l'application. On peut personnaliser, évidemment, tout ce qui est images, petit texte descriptif. Et on voit ici que l'application souhaite recevoir mes infos de base, mon adresse électronique et mes photos. Donc si je l'autorise, là je suis redirigé vers l'application. Cette fois-ci, on voit que je ne suis pas redirigé, le JavaScript a bien fait son travail et tout fonctionne comme voulu. À partir de là, on peut d'ores et déjà accéder aux éléments de l'utilisateur, par exemple son email, depuis le JavaScript. Sauf que lorsqu'on développe une application en C#, en général, on a envie de le retrouver en C#. Donc on pourrait faire une requête Ajax pour automatiquement récupérer les données depuis le JavaScript, mais ça pose des problèmes, notamment de sécurité, où quelqu'un pourrait nous envoyer des fausses données. Donc plutôt que de faire ça, on a tendance à utiliser un autre SDK, qui est le SDK C#. Donc pour l'installer, je vais utiliser NuGet, qui est un gestionnaire de packages. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez le télécharger sur nuget.org. Donc c'est une extension à Visual Studio qui en fait permet de récupérer des packages depuis un repository central. Là je vois que je vais sur les packages online et je recherche un package qui s'appelle Facebook. Donc là, je vois qu'il y a le Facebook C# SDK, qui est le premier, et je vais l'installer. Donc en fait, ce que ça a fait, c'est que ça a rajouté ici, Facebook, une référence automatique, et ça a téléchargé la DLL. Donc maintenant, dans mon contrôleur, ce que j'aimerais, c'est plutôt que de dire « Welcome to ASP.NET », dire « Welcome » avec le nom de mon utilisateur. donc mon nom que je vais stocker dans une string. Maintenant, je vais vouloir récupérer en fait toutes ces données. Pour ce faire, en fait, il va y avoir une deuxième étape dans l'authentification Facebook. Je vais vous montrer sur les slides. Voilà comment ça se passe finalement, l'authentification sur Facebook. L'utilisateur vient depuis son navigateur, il arrive sur notre application. Notre application détecte grâce au JavaScript ce qu'on vient de faire, donc qu'il n'est pas connecté. On le redirige vers la page de permission et une fois qu'il a accepté les permissions, il est redirigé vers la page qu'on a définie. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est de récupérer les informations pour avoir ce qu'on appelle un access token. Parce qu'en fait, quand Facebook m'a redirigé vers mon application, il l'a fait avec pas mal de paramètres que je dois utiliser, notamment un code de retour que je dois utiliser pour avoir un access token qui, lui, me permettra d'obtenir les infos voulues. Donc c'est un système en deux temps pour la sécurité. Donc en fait, pour récupérer l'access token, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une méthode authentication, que je vais rajouter dans mon contrôleur. Et donc, on voit que ici, on peut enlever cette condition qui ne sert à rien. Je vais créer en fait un web client pour faire une requête HTTP GET tout simple. Et donc, je vais demander à Facebook, je vais faire un appel à l'adresse graph.facebook.com/OAuth. Et je veux lui demander en fait spécifiquement un access token en spécifiant encore une fois mon client ID, c'est-à-dire mon application ID, et l'URL où je veux qu'il me redirige, ainsi que la clé secrète de mon application et le code de retour que Facebook m'a fourni. Donc on voit que dans ma méthode authentication, je vais récupérer deux choses. State, qui est en fait la variable dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la clé. Ici, c'est pour ça que j'ai mis Hello World. Bon, bah, si on veut, on peut quand même laisser la condition, mais en gros, on va dire var key égale Hello World. Donc, voilà, là, j'ai rajouté une méthode authentication dans mon contrôleur. J'ai rajouté la clé Hello World. Et maintenant, je vais faire ma requête en lui passant les bons paramètres. Donc pour ces paramètres, je vais en fait créer des champs tout simples. Constantes, qui vont en fait correspondre. Hop. Mon application ID. Et la secret key. Et je vais, bien entendu, mettre la bonne adresse de redirection. L'adresse de redirection sera donc authentication, la méthode authentication, qui se chargera de demander l'access token. Une fois que j'aurai récupéré l'access token, je vais le stocker en session, ainsi que sa date d'expiration si jamais on veut l'utiliser par la suite. Ici, la redirect URL, je vais remettre authentication, ce que j'avais enlevé tout à l'heure, pour que cette fois, on soit dirigé tout de suite après sur cette méthode. Maintenant, quand on fait ça, on va récupérer notre access token. Une fois qu'on a notre access token, on va pouvoir, en fait, utiliser le Facebook C# SDK. Créer une variable Facebook Client. Voilà, je crée en fait un nouveau client Facebook qui va utiliser le Facebook C# SDK et va utiliser l'access token. Donc avant de l'utiliser, je vais vérifier que mon access token n'est pas nul. Ce qui est intéressant typiquement avec le Facebook C# SDK, c'est que il utilise les types dynamiques de C#. Voilà. Donc, il utilise les types dynamiques de C#, qui permet par exemple ici de faire une requête à Facebook et de récupérer le first name de l'utilisateur sans avoir à créer un objet pour l'utilisateur. Ce qui fait que ce SDK est vraiment très flexible, je dirais, et permet de faire beaucoup de choses. Maintenant, maintenant, il semblerait qu'on ne soit pas redirigé vers l'authentification parce que je l'ai déjà fait une première fois. Donc c'est pour ça que si jamais l'access token est nul, alors je vais faire un return redirect function permanent authentication. Donc maintenant on arrive bien dans la méthode authentication. Et cette fois-ci, on voit bienvenue Alexandre, votre email est alexandre@mail.fr. Donc là, on voit vraiment qu'on a récupéré en fait les infos de l'utilisateur. Bon, ça peut paraître un peu obscur là, mais en fait, pour bien comprendre comment tout ça fonctionne, il faut comprendre ce qu'est la Graph API, ce qui est le but de cette démo. Donc, la Graph API, en fait, c'est un framework fourni par Facebook qui va nous fournir, par exemple, des informations sur tous les utilisateurs sous la forme d'une API REST. On va pouvoir faire graph.facebook.com/btaylor et avoir les infos. Si on fait Alexandre Co, ce qui est mon login Facebook, on a les infos. Donc, ce qui est intéressant avec cette Graph API, c'est que si on a un access token, donc là par exemple, je vais relancer l'application pour voir explicitement quel est l'access token. Donc ici, je vais apposer à côté de mon nom et de mon email, plutôt même enlever mon email et je vais mettre access token. Et on va afficher l'access token. Donc, chose qu'il faut jamais faire parce que sinon, évidemment, il ne veut plus m'afficher mon access token. Bon. Donc ce qui est intéressant avec l'access token en fait, c'est qu'il nous permet d'avoir plus d'informations là-dedans. Donc là on va le récupérer d'une autre manière en fait, c'est qu'on le récupère dans cette méthode où on va faire alert access token. J'ai l'impression qu'en fait ce n'est plus le bon serveur de JS qui est affiché parce que là je vois pas les changements que je fais. C'est étrange. Ok. Bon, je vais continuer. Donc, avec cet access token, on va en fait en l'apposant ici sous la forme access token. Donc, par exemple, ici j'en ai un valide. Bon, j'en ai un valide. On va avoir des infos supplémentaires. Donc, typiquement, on aura le champ email qui sera rajouté ou le champ birthday, etc. Des infos qu'on souhaite récupérer. Donc, maintenant, on va souhaiter récupérer les infos d'un utilisateur et les enregistrer typiquement dans les blobs. Donc pour ce faire, il faut avoir bien sûr téléchargé le dernier SDK Azure. Et pour avoir le dernier SDK Azure, il suffit de se rendre sur windowsazure.com. La dernière version en date, c'est la version 1.6. Et je vais vous faire une petite présentation de qu'est-ce que le Azure Storage. Typiquement, en fait, c'est une série de fonctionnalités proposées par Windows Azure pour stocker ces données sur le cloud. Ça va être trois types de fonctionnalités. Les blobs, ce sont des fonctionnalités qui vont nous permettre typiquement d'enregistrer des fichiers. Les tables, c'est en fait une sorte de base de données, mais non relationnelle. On va pouvoir stocker dans une table énormément de données sous la forme, en rajoutant des colonnes, en rajoutant énormément de lignes. C'est vraiment... C'est pas une base de données, en fait, c'est uniquement un tableau, mais on va pouvoir requêter ce tableau en fonction des différentes lignes, en fonction de clés spécifiques. Et enfin, il y a les queues qui sont comme une file d'attente qui permettent de stocker des messages pour savoir comment les données transitent, pour savoir que les données réussissent tout le temps à arriver dans une file. Quand une donnée arrive dans une file, typiquement, on va pouvoir la dépiler. Et une fois qu'on l'a dépilé, on va confirmer à la file qu'on l'a bien dépilé. Si jamais on l'a dépilé mais qu'il y a une erreur, alors la donnée va réintégrer tout le temps la file, ce qui permet vraiment d'avoir une certaine tolérance de panne, je dirais. Et donc tous ces trois éléments sont requêtables directement via HTTP depuis l'utilisation de nos machines Azure. Donc typiquement, comment ça se passe pour enregistrer dans les blobs, on va avoir un conteneur de blobs qui va par exemple nous permettre de les trier par type. Ici on va avoir un conteneur photo, un conteneur film, et enfin il y a le blob qui est un fichier finalement binaire, un peu comme dans du SQL Server, ça s'appelle des blobs également, où on va pouvoir enregistrer notre data avec un nom. On va pouvoir également leur associer des métadatas pour savoir de quoi il s'agit. Donc pour requêter les blobs ou même les storage Azure, il y a un logiciel qui s'appelle Cloud Storage Studio. Donc là j'ai la version développement uniquement qui permet en fait de voir un peu les différentes data qu'on a dans nos tables, nos queues et nos blobs. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on lance une application pour utiliser les blobs, il faut avant avoir configuré son application pour utiliser Azure. Donc pour ce faire, en fait, je vais repartager mon écran cette fois. Donc pour ce faire, dans Visual Studio, typiquement, je vais faire New Project. Ouais, New Project. Et je vais sélectionner Cloud Windows Azure Project. Là, je vais l'appeler Demo Azure Cloud. Et je vais dire que ce projet, je veux lui associer un webroll. En fait, c'est pas de cette manière qu'il fallait faire. Je vais réouvrir mon projet. Voilà, on fait Add New Project, je lui fais un projet Cloud, Azure Cloud, je peux spécifier quel type de projet je veux lui associer, donc là on va rien mettre, et une fois que le projet Cloud a été créé, je clique droit et je fais New Web Role, parce qu'on va héberger notre application web sur Azure. Bon, je clique là. Voilà, New Web Role Project. Je vais y arriver. Web Role Project in Solution. Voilà. Donc là, je sélectionne mon project qui est dans la solution. Une fois que mon projet est dans la solution, en fait, je vais pouvoir, en faisant F5, lancer ce qu'on appelle l'émulateur Azure qui va vraiment transformer notre session, notre bureau comme s'il était sur Azure. Donc là, on voit qu'on a un émulateur qui s'est lancé. Et on voit que cet émulateur a une machine qui est en train de démarrer. Donc, par contre, ce qui se passe quand on regarde dans les logs, c'est qu'en fait, je ne trouve pas, mais en fait, Azure automatiquement va remapper les ports et donc on va accéder à notre application via localhost 2.81 au lieu de 80. Pour pouvoir y accéder via notre page Facebook, on va être obligé de changer notre port. Là, si je fais localhost 2.81, j'arrive sur mon application Facebook. Mais cette fois-ci, hébergé sur mon émulateur Azure. Donc, comment on fait pour enregistrer les datas d'un user sur les blobs? Typiquement, ça va se faire grâce à deux fonctions que j'ai ici, qui sont en fait Download User Photo, qui va faire une requête graph sur Facebook pour récupérer la liste des photos et les télécharger. Une fois qu'on aura téléchargé les photos sur Facebook, Download Data Completed va être appelé, et là, on va créer un nouveau Cloud Storage Account, qui est en fait un objet utilisé pour manipuler les blobs. On va créer un nouveau blob client, récupérer le contenu d'un conteneur, créer notre conteneur s'il n'existe pas, et générer un nouveau nom unique pour notre photo, et l'uploader sur les serveurs de blob. Donc, on voit que pour créer notre compte de stockage Azure, en fait, on va avoir une connexion string à mettre dans le app settings dans le web.config. Qui est ici use development storage égale true. Donc un petit truc là-dessus, pour le development storage, par défaut, il utilise SQL Express. Donc si vous n'avez pas SQL Express, vous allez devoir lancer en ligne de commande la commande suivante, qui est dsinit/sqlinstance. Vous voyez bien mon écran cette fois-ci. Ouais. Ok. Donc une fois qu'on a stocké les données sur les blobs, ce qui est intéressant, c'est que on va pouvoir en plus bénéficier du CDN Azure qui en fait permet de répartir. Donc là on voit une carte qui montre chaque endroit du monde où se trouve un serveur de stockage de fichiers Azure. Et donc toutes nos images qu'on vient de télécharger sur les blobs en fait vont être téléchargées automatiquement sur les serveurs. Ce qui fait que si on a un utilisateur qui est en Amérique du Sud, il va pouvoir accéder à l'image depuis cette adresse plutôt que depuis un serveur par exemple qui serait en Europe. Ce qui fait un gain de temps assez important à l'affichage et qui permet vraiment d'avoir une application top qualité pour les utilisateurs dans le monde entier. C'est notamment ce qu'on utilise pour la météo du moral où on se rend compte que vraiment on a une grosse tranche de population en Amérique du Sud, on utilise ce type de stockage CDN. Donc une fois qu'on a réussi à récupérer les données d'un utilisateur via Facebook, on va vouloir les enregistrer sur SQL Azure. Donc quelles sont les différences entre SQL Azure et SQL Server? Typiquement, c'est que dans SQL Azure, on n'a pas d'accès au système de fichiers. Donc on ne va pas pouvoir définir par exemple où sont nos fichiers LDF, MDF, on ne va pas pouvoir définir pas mal de petites options comme ça. Il y a aussi une limitation, on est obligé d'avoir un index cluster sur chaque table dans SQL Azure. Mais un des avantages, c'est qu'on va pouvoir choisir son data center. Donc, je vais vous faire une petite démo sur comment on va pouvoir créer facilement. Donc, pour pouvoir créer son serveur SQL Azure, en fait, il suffit d'aller sur windowsazure.com, se connecter avec son login mot de passe. Donc, c'est une interface en Silverlight plutôt simple. On va aller sur Database. Et on voit ici la liste de nos serveurs de base de données. Très facilement, on va pouvoir, si on le souhaite, créer un nouveau serveur si on n'a pas excédé les quotas. Et donc, ici, par exemple, c'est un serveur de base de données que j'ai créé, que j'ai choisi, qui soit en North Europe. Si je veux, je peux même le bouger et dire qu'il aille dans un autre abonnement Azure. Donc, une fois qu'on a notre serveur, on peut, si on le veut très facilement, le gérer soit depuis l'interface Silverlight, soit depuis son SQL Server Management Studio. Donc pour vous montrer la couche d'accès aux données, typiquement, je vais quand même passer par là. On peut facilement y accéder avec Entity Framework Code First. Désolé, je me mélange un peu dans mes projets. Voilà. Donc là, typiquement, j'ai créé un Facebook user dans mon modèle avec un ID, un first name, un last name, un email, un birthday, donc des infos qui correspondent à un user. Un user va avoir une collection de ces photos que je vais récupérer depuis Facebook. De la même façon, j'ai un objet photo pour stocker mes photos. Je vais avoir un Facebook User Repository qui va pouvoir me récupérer depuis ma base de données un utilisateur en fonction de son ID, qui va pouvoir me créer un nouvel utilisateur. Donc ça, c'est du Entity Framework Code First. Donc c'est basé sur des conventions. Donc typiquement ici, on va avoir une chaîne de connexion qui en fait aura le même nom que le DB Context qu'on a créé. Donc notre DB Context ici s'appelle Demo Azure DB Context. La connection string, c'est la connection string vers mon serveur SQL Azure, la base de données que j'ai définie et le user et password définis pour pouvoir s'y connecter. Donc voilà un peu comment on a créé la base de données. Donc c'est un script qu'on a passé sur la base SQL Azure. On a créé la base de données. Ensuite, on a créé un login pour pouvoir s'y connecter. Ensuite, il faut se reconnecter pour utiliser la base qu'on vient de créer, parce que SQL Azure n'autorise qu'une seule connexion par base de données. Ici, donc, on va voir le script. On crée la base de données, on crée le login avec le password. Ici, il faut se reconnecter sur la bonne base. On va créer un user et on va faire des create tables. Il faut savoir, par exemple, typiquement, une requête comme use, comme ça ne fonctionne pas sur Azure, donc ça fait planter. Donc on ne peut vraiment pas changer de base de données quand on est connecté à une base Azure. Donc voilà, ça nous a créé notre base Azure. Si on souhaite, on peut s'y connecter en utilisant le login mot de passe qu'on vient de faire. Demo login. Hello world, 1, 2, 3, pourcentage. Hello world. Et voilà, je vois ma base avec mes deux tables user, avec à l'intérieur mes données. Donc maintenant qu'on a vraiment quelque chose, si on a une application avec une. Je ne vous ai pas montré dans le Home Controller en fait. J'y retourne. Donc maintenant, on va récupérer, si on souhaite, l'utilisateur depuis Facebook, et on va récupérer le user courant. Si le user courant n'existe pas, alors on va le créer via notre repository, avec toutes les infos qu'on a récupérées depuis Facebook, et ensuite on va télécharger ces photos. Si on va voir la méthode download v2, on se rend compte que à la fin du téléchargement et de l'upload d'une photo sur les blobs, on va pouvoir très facilement enregistrer le nom de la photo et ainsi réaccéder à la photo qu'on a souhaité stocker dans les blobs. Donc, pour les blobs. Donc maintenant, si on veut plus de Facebook, en fait, on va pouvoir utiliser le JavaScript SDK, ce qui va en fait nous permettre d'implémenter des fonctionnalités supplémentaires, comme par exemple, je vous montre sur la page homepage, je vais rajouter deux boutons, un bouton publier sur votre mur et un bouton inviter vos amis. Donc ces deux boutons, publish button et invite button en fait, ils vont pouvoir être configurés depuis un fichier de script. En utilisant du jQuery, donc tout simple. Si jamais l'objet Facebook est défini en JavaScript, alors on va pouvoir faire des requêtes Facebook, comme ici FBUI, pour faire une publication sur son mur, ou invite pour inviter ses amis. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. C'est pas une bonne chose. Ici, si je fais inviter vos amis, je vais avoir vraiment je vais pouvoir inviter mes amis, donc je peux m'inviter moi-même, je peux inviter mes collègues si je le souhaite, et voilà, ça a invité une invitation. Si je fais publier sur mon mur, je vais avoir donc la petite description dans le voice, et je vais pouvoir choisir à qui je veux publier, et je vais publier. J'aurai également des callbacks JavaScript qui permettront de savoir quand est-ce que le post a été publié, et maintenant, si je vais voir sur mon mur, je vois que ça a bel et bien été publié il y a 10 secondes. Donc ensuite, une étape importante sur Facebook, c'est vraiment de configurer HTTPS, parce qu'il faut savoir que Facebook oblige les utilisateurs à utiliser HTTPS pour vraiment leur donner un sentiment de sécurité supérieur. Et en fait, si on ne configure pas son application sur Facebook, on ne peut pas la publier parce que Facebook nous en empêche. C'est vraiment écrit, on peut la développer sans HTTPS, mais on est obligé, lors de la publication, de fournir du HTTPS. Donc pour configurer du HTTPS, on va devoir, dans un premier temps, obtenir un certificat. Et enfin, configurer le certificat dans le projet Cloud. Donc pour configurer le certificat dans le projet Cloud, typiquement, il faut aller sur les propriétés de son projet, Certificate, et on va rajouter un certificat. Donc typiquement, à Envoice, on a un certificat wildcard, et là, il va nous demander de choisir le certificat. Donc on voit ici qu'on a un seul certificat disponible, qui est le certificat 2IS, et c'est un peu embêtant. Donc le certificat, on l'a commandé auprès d'un provider de certificats. N'importe quel hébergeur web, en général, permet d'acheter des certificats. Mais là, comment vais-je pouvoir ajouter mon certificat wildcard? Pour ce faire, en fait, je vais devoir utiliser une console MMC Windows et en fait, ajouter un snap-in qui va me permettre de gérer les certificats. Je veux ajouter un snap-in pour le certificat de mon ordinateur, donc local computer. Et enfin, je vais sélectionner le store personnel et je vois ici que j'ai bel et bien un certificat. Donc je vais maintenant importer un nouveau certificat que j'ai récupéré. Voilà. Maintenant, le certificat apparaît ici et apparaît également ici, donc je vais pouvoir le configurer. Donc ça paraît anodin, mais on peut y perdre beaucoup de temps si on ne connaît pas ce petit truc, parce que c'est pas évident de voir où est-ce que, qu'est-ce qu'il faut mettre, quel certificat on souhaite mettre. Donc une fois que mon certificat a été mis ici sur mon application, il va falloir également sur Windows Azure l'uploader. Ça, je vous le montrerai dans un second temps quand je vais uploader le projet. Mais une fois que j'ai mon certificat, je vais après pouvoir également configurer mon adresse internet pour Facebook. Maintenant, on va passer au déploiement du projet qui est vraiment le projet cloud en fait. Donc, si j'ai un projet cloud, typiquement, je vais prendre mon projet terminé qui est Demo Azure Test. Comment je peux le déployer? En fait, je peux faire Publish ou Package. Donc, si je fais Package, en fait, il va me demander quelle configuration.
On voit toujours pas ton écran, Alexandre. Excuse-moi.
C'est pas grave.
Bon.
C'est pas intuitif le logiciel, ça fait oublier, en fait.
Ouais, je comprends.
Donc, on va pouvoir ici. En cliquant sur son projet cloud, faire package. Ça va nous permettre donc de définir qu'on veut déployer un nouveau package de notre application vers le cloud. Là, la publication a commencé en local et il m'a ouvert donc le projet avec un fichier CS package, en fait un fichier zip qui contient tout mon projet et un fichier CS CFG. Et à ce moment-là, je vais pouvoir copier-coller cette adresse, aller sur mes hosted dans l'onglet Hosted Service et créer un nouveau hosted service Azure. Ici, je vais l'appeler par exemple Demo Azure et son adresse sera demoazure.cloudapp.net. Je vais pouvoir sélectionner une région, donc on va vouloir le mettre dans le nord de l'Europe. Et on va dire on veut déployer en production tout de suite. Là, je vais chercher sur mon ordi avec l'adresse qui a été donnée tout à l'heure. Et je vois exactement les deux fichiers qu'il faut. Et maintenant, je vais pouvoir ajouter le certificat que je souhaitais rajouter. La différence ici, c'est que je vais devoir rajouter un certificat wildcard. Mais un PFX, c'est-à-dire qui contient également la clé secrète. Maintenant, je vais dans mon gestionnaire de password. Récupérer le password du certificat. Je copie-colle. Et voilà. Il me dit que le nom, en fait, n'est pas possible, donc je vais l'appeler Demo Azure 2. Et voilà, très facilement, l'upload a eu lieu. Donc là, il est en train de me dire qu'il y a un warning, par contre, c'est parce que, en fait, dans la configuration de notre hosted service, donc là, qui est en train d'être créé, comme on peut le voir ici, dans la configuration de notre hosted service, en fait, on peut définir le nombre d'instances. Je vais vous montrer ça. Ici, on a défini qu'on voulait seulement une petite instance. D'où le warning, car en fait, pour respecter le SLA Azure, il faut au moins deux instances. Donc, une fois que j'ai fait ça, si je veux le HTTPS, par contre, c'est un petit truc qu'il faut savoir, c'est qu'il faut également rajouter un endpoint. Donc ici, on va mettre notre second endpoint avec HTTPS, et sélectionner le certificat wildcard qu'on a rajouté. Donc voilà un petit peu comment configurer du HTTPS pour Azure. Donc derrière, une fois qu'on aura bien configuré et que notre serveur sera bien déployé, on pourra y accéder via l'adresse https.demoazure2.cloudapp.net. Voilà. Donc la base SQL Azure, on peut la créer depuis l'interface web. On peut également créer le storage account depuis l'interface web, où en fait on va, ici il suffirait de faire new storage account, on va avoir du coup une adresse pour attaquer nos blobs et des clés secrètes pour y accéder en HTTP très facilement. Donc voilà, maintenant je vais vous faire un petit peu le bilan de quelles sont les choses qui sont vraiment très intéressantes sur Azure et quelles sont les choses qu'on a trouvées un petit peu plus délicates lorsqu'on a utilisé Azure. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut facilement créer des serveurs dans des data centers différents. Typiquement, nous avons un serveur en Amérique du Sud, enfin plusieurs serveurs en Amérique du Sud, plusieurs en Europe. Et ça nous permet vraiment de donner une meilleure expérience utilisateur aux quatre coins du monde. Donc on peut facilement augmenter le nombre d'instances. Donc là, je vais vous montrer typiquement, là je ne peux pas vous montrer sur celui-là, mais par exemple si on regarde sur notre application ModeWeather, il suffit d'aller dans Configuration. Ici, j'ai ce qu'on appelle un Instance Count. Là, il me dit qu'il y a 4 serveurs, et bien si je veux, je peux mettre 12, 20, autant que je veux, et augmenter le serveur pour... je vous ai pas partagé mon écran. Voilà, là je vous montre sur Azure. Je sélectionne le WebRoll, je sélectionne la configuration, et je peux voir le nombre d'instances. Ici, je peux facilement passer de 4 à 12. Donc ce qui est intéressant également, c'est ce qu'on appelle le swap VIP, qui en fait permet de passer une application de la production à ce qu'on appelle le staging, qui est un hosted service Azure qui est accessible via une autre adresse web, ce qui permet vraiment de gagner du temps dans tout ce qui est, si on déploie une application et qu'il y a un bug critique, on peut en 30 secondes remettre l'application comme elle était avant la nouvelle version qu'on vient de tenter. Ce qui est très bien également, c'est la haute disponibilité fournie par Azure pour Facebook, c'est important. Et on va pouvoir également automatiser via PowerShell, les API fournies par Microsoft en C#, pas mal de tâches. Par exemple, on peut augmenter le nombre d'instances automatiquement, on va pouvoir éteindre des serveurs, rallumer des serveurs. Et enfin, Microsoft a été d'un bon support pour nous aider à l'implémenter, surtout dans les débuts. Enfin, les points négatifs, je dirais, c'est que il est parfois difficile d'évaluer sa consommation, surtout en temps réel. En fait, on obtient une facture à la fin du mois, mais c'est beaucoup plus compliqué parce que les calculs sont parfois difficiles à réaliser. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte dans la facturation, que ce soit la bande passante, la taille des différentes instances SQL Server, la taille des machines qu'on utilise. L'émulateur est en fait difficile à utiliser parce qu'il y a certains petits éléments qui se révèlent ne pas fonctionner sur l'émulateur mais fonctionnent en prod. Donc ça c'est un peu dommage et ça ralentit relativement beaucoup la machine. Et enfin, je dirais que la plateforme est encore jeune et parfois certaines erreurs sont trop peu documentées. Et c'est dommage de devoir se tourner vers Microsoft pour vraiment... arriver à débugger certains problèmes. Merci à tous d'avoir suivi ce meeting. J'espère que la rapidité des sujets évoqués n'a pas été trop grande. Sachez que Envoice est toujours à la recherche de talents. Donc si vous pensez que le cloud computing, le Facebook peut vous intéresser, n'hésitez pas à postuler. Ou si vous pensez que vous avez un projet Facebook à réaliser dans votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter. Merci à tous.